parcours grand débat sur FM+, André Bourguet au micro. Bonjour et bienvenue dans cette heure d'information. Toujours dans la quinzaine tiers-monde de Montpellier, nous poursuivons le thème de notre dernière émission sur l'accueil des migrants avec l'expérience de SOS Méditerranée qui participe au sauvetage en mer de nombreux accidentés de l'exil. Et nous allons entendre parler d'un bateau, l'Aquarius. L'Aquarius qui est devenu le sujet d'un livre et d'un film de Jean-Paul Marie, Les migrants ne savent pas nager. Le public de la soirée aura l'occasion de voir le film. Quant à nous, nous en tiendrons au témoignage de deux volontaires de l'Aquarius, suivi d'un débat. Coup de Soleil, une des associations qui a préparé cette rencontre, nous accueille.
Bonsoir. Bon, donc moi je suis Michèle Rodary, présidente de l'association Coup de Soleil Languedoc-Roussillon. Coup de Soleil est une association nationale qui se décline dans les régions. Et pour l'instant, on a des sections à Montpellier, Perpignan et Toulouse, dans la région. C'est une association culturelle France-Maghreb, dont le but est de montrer toutes les relations qu'il y a entre la France et le Maghreb et de faire émerger toutes les possibilités là-bas et ici. Surtout au niveau de la culture, mais on fait aussi pas mal de choses sur l'actualité. Bon, alors, Monique parlera peut-être un petit peu plus de nos relations avec SOS Méditerranée, comment on est venu à cette soirée. Les projets actuellement, à la quinzaine, il y a cette soirée, et on a aussi une soirée à Clermont-Lérault où on va faire des lectures autour du thème de l'immigration et de l'exil immédiat. Bon, je passe la parole à...
Oui, bonsoir. Donc peut-être que certains d'entre vous sont venus quand nous avons reçu Jean-Paul Marie il y a au mois de juin, je crois, pour son livre Les bateaux ivres. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent se le procurer, il est ici. Il vous permettra de connaître l'histoire des migrants, non pas à partir du moment où ils prennent le bateau avec les risques que l'on connaît, mais parfois il y a toute leur histoire. Certains ont eu une odyssée de 5 ans. Ils ont quitté leur pays pour des raisons de dictature, de torture, de viol, de famine, de guerre. Donc c'est un livre qui est bouleversant, que je vous recommande. Donc on l'a connu au Maghreb des livres, où il présentait son livre. Il est venu ici et il est parti au mois de mars, je crois, passer 3 semaines sur l'Aquarius, qui est le bateau affrété par SOS Méditerranée. Il a rendu compte au quotidien de ce qui se passait sur ce bateau, des sauvetages, et ce film, donc, c'est le résultat de ces 3 semaines. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vais passer la parole à SOS directement.
Bonsoir, merci. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, je suis Coralie, je travaille pour SOS Méditerranée à Marseille. Et Bertrand va aussi prendre la parole. Bertrand est un marin qui a embarqué sur l'Aquarius cet été. Et donc, il vous parlera bien mieux que moi de son expérience à bord de l'Aquarius. On voulait vous présenter rapidement SOS Méditerranée. Donc, pour vous présenter SOS Méditerranée, il faut partir du coup du contexte. Donc, je veux bien passer la slide d'après. Donc, ça, c'est une carte qui est régulièrement mise à jour par l'Organisation internationale des migrations et qui reprend en fait un petit peu les différentes voies de passage sur la mer Méditerranée. Depuis le début de l'année 2016, il y a 4271 personnes qui se sont noyées en mer Méditerranée. Ça, c'est le chiffre recensé. C'est-à-dire que nous, malheureusement, on n'a aucun chiffre pour dire ça, mais on est persuadé qu'il y en a beaucoup de plus. En fait, ce chiffre est fait à partir soit de personnes rescapées qui peuvent témoigner qu'il y a eu des personnes mortes à bord de leur embarcation, soit d'embarcations retrouvées. Mais on est sûr qu'il y a plein d'autres embarcations qui ont coulé sans laisser aucune trace. Donc on a ce chiffre-là, mais on peut malheureusement imaginer qu'il est bien plus important. Et donc sur ces 4271 personnes disparues en mer Méditerranée, on peut voir ici 3793 donc vous voyez la proportion, sont mortes entre l'Italie, entre la Libye pardon, et l'Italie. Et en fait, c'est ce chiffre alarmant. Alors, 4000, le passage de la barre des 4000 est cette année le plus important depuis pas mal d'années. Et donc, ce chiffre morbide a poussé deux personnes à agir et à lancer SOS Méditerranée. Donc, ce sont Sophie Beau et Klaus Vogel, les deux cofondateurs d'SOS Méditerranée. Donc, Klaus Vogel est un capitaine de marine marchande allemand et Sophie, une humanitaire française, qui tous les deux étaient indignés de ce qui se passe en mer Méditerranée, ont décidé d'agir et de se lancer dans... oui, on peut passer à la niveau d'après, je reviendrai dessus. Et donc, on se sont lancés dans le pari fou d'affréter un bateau, l'Aquarius, que vous verrez dans le film de Jean-Paul Marie, que vous pouvez voir ici, un gros bateau, pour faire du sauvetage en mer. Donc voilà, ça c'est à peu près les chiffres que je vous reprenais tout à l'heure. SOS Méditerranée, pour planter un petit peu le cadre, ça fait un peu plus de 8 mois qu'on est en mer. Le bateau est parti fin février depuis Marseille. À ce jour, on a réalisé 38 opérations de sauvetage et on a secouru un peu plus de 8000 personnes. On vient de faire un sauvetage tragique en début de semaine où nos équipes ont retrouvé 5 corps au fond d'une embarcation. Elles ont pu secourir une centaine de personnes, mais il y avait 5 corps et une personne aussi qui s'est noyée sous leurs yeux. Ils ont aussi eu à faire un transbordement, enfin, on vous expliquera après comment ça se passe, avec d'autres personnes secourues par un autre bateau. Ils ont récupéré aussi 4 autres cadavres. Donc voilà, l'actualité est là.
Oui. Pour compléter, hier, sauvetage tragique, oui. Sur quelques personnes qu'ils ont récupérées, il y en a une centaine qui se sont noyées.
Oui. Les personnes qu'on a secourues ont témoigné qu'il y avait 100 personnes avant qu'on arrive et qui n'étaient plus là.
En 2 jours, il y a eu 245 noyés recensés cette semaine.
Donc voilà, du coup, on peut passer à la slide d'après. Donc SOS Méditerranée, rapidement. Donc l'association a fêté ses 1 an d'existence en juin dernier. Donc Klaus et Sophie, les deux personnes dont je vous parlais, ont lancé SOS Méditerranée d'abord en Allemagne, puisque Klaus est allemand, et puis ensuite en France, en juin. Donc c'est une toute jeune association. Ils sont partis de rien, simplement de leur indignation. Ils se sont dit, si on est tous les deux indignés, il doit bien en avoir d'autres. Donc voilà, comme je disais, ils sont partis dans cette aventure qui est énorme. Pour pouvoir affréter ce bateau, il fallait récolter 1 million d'euros en partant de rien. Klaus et Sophie, personne ne les connaît. Ils ont réussi à nouer un partenariat très vite avec Médecins du Monde, qui avait une clinique à bord du bateau lors de nos 3 premiers mois de campagne, ce qui nous a assuré aussi quand même une crédibilité dès le début pour pouvoir justement aller toucher le grand public. Donc pour se lancer, pour récolter cette somme importante, on a lancé une campagne de crowdfunding sur Internet en septembre 2015, de l'année dernière, qui fut un succès incroyable, complètement inattendu. En 40 jours, on a récolté 275 000 euros. C'était complètement inespéré. Et donc, ça a fait levier. On a réussi à récolter assez d'argent pour pouvoir donc affréter ce bateau. On ne l'a pas acheté. C'était trop compliqué, trop coûteux. Donc, on le loue à un armateur allemand. Et donc, c'est un ancien garde-côte allemand qui était basé, du coup, en Allemagne, qu'on a fait venir, on l'a fait venir jusqu'à Marseille. On a fait une grande journée de mobilisation à Marseille. On a ouvert les portes du bateau au grand public. Et le 26 février, le bateau était positionné sur la zone de sauvetage. Entre-temps, on a changé de partenaire médical. Maintenant, on est avec Médecins Sans Frontières, donc qui ont une clinique à bord du bateau. Voilà, rapidement. Donc, les objectifs, évidemment, sauver des vies. On ne se pose pas vraiment la question de qui on sauve, mais simplement, il y a des gens qui se noient, allons les sauver. Donc, vraiment une thématique très humaine. Protéger et accompagner. Ça, grâce à notre partenaire Médecins Sans Frontières, qui a une clinique à bord, qui s'occupe de l'accueil, qui s'occupe des premiers soins, de leur donner de quoi manger, de quoi se vêtir. Et puis, évidemment, témoigner, mobiliser toujours plus, puisque, comme vous vous en doutez, on a besoin d'argent. Et puis, au-delà d'avoir besoin d'argent, c'est aussi faire connaître ce qui se passe en mer Méditerranée. Beaucoup de gens, en fait, ne sont pas au courant. Ou alors, ils sont au courant, mais pas dans ces proportions. Donc, c'est très, très important de témoigner sur ce qu'il se passe en ce moment en mer Méditerranée, pas si loin de chez nous, finalement. Voilà, je vais laisser la parole à Bertrand qui va vous expliquer un petit peu plus le bateau et les opérations.
J'étais à bord de mois de juin au mois d'août cet été, donc en plein pic, enfin en haut de la courbe, on va dire, au niveau des départs, puisque les départs se font essentiellement quand la mer est calme, et l'été, donc c'est une période propice pour les départs. Et juste pour compléter ce que vient de dire Coralie sur les témoignages, donc on les secourt, on va voir ça tout à l'heure, on les soigne ensuite à bord et on les ramène donc en Italie. Et bon, pendant le voyage retour, on passe à peu près 30-36 heures avec eux. Et donc on récolte un nombre incroyable de témoignages qui se recoupent et qui témoignent de la situation tragique qu'ils peuvent vivre en Libye. Et on pourra en parler si vous avez des questions à ce sujet. Parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur les raisons de leur départ et de leur migration. Et voilà, il faut savoir qu'ils sont un peu poussés dehors aussi. Le bateau, l'Aquarius. C'est un ancien bateau de garde-côte allemand qui opérait en mer Baltique notamment pour secourir les bateaux de pêcheurs allemands. D'accord ? C'est un bateau de 77 mètres. Et aujourd'hui, il était seul sur la zone en début d'année dernière. Il a été rejoint ensuite par 6 ou 7 autres ONG de différentes nationalités. Et c'est sans doute le bateau le plus approprié pour ce genre d'opération. Donc il a deux canots de sauvetage qu'on met à l'eau pour aller protéger les migrants qui sont sur des bateaux souvent en plastique ou en bois, leur donner le jet de sauvetage et les transborder ensuite à bord de l'Aquarius. Et l'Aquarius ensuite, il a un pont extraordinaire, très large, très long, qui fait qu'on peut mettre, enfin le maximum que l'on ait mis, c'est 650 personnes. D'accord ? Et donc il est également équipé d'une clinique. Et on a eu donc on soigne des blessures qui sont souvent des blessures de guerre ou des blessures de piétinement dans les bateaux. Pour vous donner un exemple concret, on a à peu près là 110 personnes dans la salle. Les bateaux en plastique que vous voyez là sont des bateaux qui font l'équivalent de la longueur de la première d'une rangée sur trois chaises. D'accord. Et imaginez que tout le monde, tous ici, vous êtes sur trois rangées. D'accord. Avec les hommes qui sont tout autour, qui s'assoient donc sur les rebords du pneumatique, et les femmes et les enfants qui sont entassés et assis par terre. Le bateau est assez profond, il fait à peu près ça de profondeur. Donc ils sont assis par terre dans l'eau et surtout le fuel, puisqu'ils embarquent des bidons de fuel qu'ils en mettent à moitié à côté quand ils remettent de l'essence, si vous voulez, dans le moteur. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, notamment, qui sont brûlées par le fioul, aux jambes, entre cuisses, donc il faut les soigner. Et puis également, elles sont sujets au piétinement, dans les mouvements de panique ou dans les mouvements du bateau, et également les enfants et les bébés. Alors, j'ai peut-être un peu dévié du sujet, juste par rapport au bateau, si on peut revenir un peu en arrière, s'il te plaît. Oui, mais c'est bon. Et donc, ensuite, au niveau de l'intervention, donc, elle est coordonnée par ce qu'on appelle le MRCC. Le MRCC, c'est l'équivalent du CROSS en France. En gros, c'est le centre de coordination, de recherche et de secours en mer. Ça existe dans toute la Méditerranée, il est basé à Rome. Et dès qu'il y a un bateau qui est en détresse, qui est signalé soit par lui-même, soit par d'autres bateaux qui voient qu'il est en détresse, et ça, quand je dis bateau, c'est n'importe quel bateau, ça peut être un plaisancier, ça peut être un pétrolier, et là, en l'occurrence, ce sont des bateaux de migrants. Donc, ils sont signalés, le MRCC repère sa position, et ensuite demande au navire qui est le plus proche du bateau qui est en détresse, lui demande d'aller le secourir. Et c'est un droit et c'est un devoir de tout marin sur toutes les mers du globe. On se doit de porter assistance à un bateau qui est en détresse. D'accord ? Et nous, du fait que l'on soit les seuls bateaux civils sur zone, accompagnés aussi des gardes-côtes italiens et des bateaux militaires de toutes les nationalités du monde. Ils nous demandent souvent à nous, en premier, d'aller secourir le bateau migrant parce que, tout simplement, on est le plus proche de ce bateau-là. D'accord ? Et donc, on se doit de respecter les ordres de ce centre de coordination. Et c'est lui ensuite qui nous dit, mais voilà, vous les amenez, vous restez encore sur zone parce qu'il y a encore d'autres bateaux qui vont être en détresse ou qui sont signalés. Ou alors, vous les transbordez sur un autre navire qui est en partance pour l'Italie, ce qui nous permet de rester sur zone. Ou alors, si vous êtes plein, pour rentrer en Italie, déposer les rescapés. D'accord ?
Sachant que c'est forcément dans des ports italiens que les migrants sont débarqués.
Voilà, aujourd'hui, il y a quelques années, c'était Lampedusa, donc c'est l'île la plus proche des côtes libyennes. Cet été, c'était la Sicile. La Sicile a été très vite over quota à partir du mois d'août. On continue à en emmener, mais de moins en moins. Et sinon, c'est la Sicile. Là, le sauvetage, le transbordement du jour, avec 400 personnes à bord aujourd'hui, va se faire en région de Calabre. D'accord ? Et des fois, c'est dans les Pouilles. Et donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, et il peut y avoir aussi un débat par rapport à l'accueil de ces personnes, de ces humains en France, quand on parle de 5-6 000 personnes à Calais, sachez que l'Italie, au jour d'aujourd'hui, a accueilli en 2016 160 000 personnes, et les a gérées de manière tout à fait humaine. L'équipage, c'est un équipage international, qui est composé de 4 parties, on va dire. Il y a une équipe, l'équipe du bord, qui est le capitaine et ses marins, qui s'occupent de la bonne marche du bateau, de son entretien, qui sont essentiellement des marins de l'Europe de l'Est et de Russie, et puis quelques personnes également du Ghana, et également de Philippines. Ensuite, il y a l'équipe SOS Méditerranée, que l'on appelle Search and Rescue. Search and Rescue, donc recherche et sauvetage. Ce sont des volontaires européens, donc on a à peu près une dizaine, et qui se relaient en gros toutes les 3 semaines. On fait des rotations de 3 semaines. Les marins. On peut rester plus longtemps. Le maximum envisagé est de 9 semaines, donc 3 rotations. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un rythme très soutenu, c'est très dur physiquement et moralement. Donc au bout de 9 semaines, on se doit de faire un break. Et donc ensuite, la troisième équipe, ce sont les médecins, infirmiers et sages-femmes de Médecins Sans Frontières qui prennent le relais donc à bord pour soigner ces personnes. Et enfin, la dernière partie, ce sont les médias, les journalistes, les boîtes de production qui sont là pour témoigner de ce qui se passe et faire connaître le vrai visage de la migration actuelle et de ce qui se passe en Méditerranée. Les rescapés, donc, en gros, hein, on a à peu près 80% d'hommes, 20% de femmes, et à l'intérieur de ces 100%, on a à peu près 30% d'enfants, de mineurs. D'accord ? Et c'est un chiffre qui est en évolution. Au début d'année, on était plutôt aux alentours de 20%, et là, on est plus aux alentours des 30%. Donc, il y a tous les âges, il y a les bébés. Il y a les enfants en bas âge, il y a les adolescents qui représentent une bonne partie quand même. Donc sur cette proportion des 30%, il y a 9 enfants sur 10 qui sont seuls. Ce que certains appellent en France les mineurs isolés. D'accord ? Soit parce qu'ils sont partis seuls de chez eux, en laissant leur famille à 13-14 ans, et leur famille décide qu'ils sont libres, que leur fait des gestes, et d'aller faire fortune ou de tenter leur chance ailleurs pour les migrants économiques de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, ou ceux qui sont en guerre ou qui fuient Boko Haram ou Ebola, les maladies. Donc soit ils sont partis d'eux-mêmes, soit ils ont perdu leurs parents en route. Juste un exemple, on rencontre un jeune de 17 ans, on lui demande depuis combien de temps il est en Libye. Il lui dit que c'est depuis l'âge de 13 ans. Donc il est resté 4 ans en Libye, il a même connu Kadhafi. On lui demande d'où il vient. Et il lui dit, je sais pas, parce que je suis parti, j'étais très 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 jeune, quoi, 5-6 ans. Et puis ma mère s'est fait tuer sur la route, et donc je ne sais pas d'où je viens. C'est pour un exemple concret de la situation de ces enfants. D'accord ? Sur les violences en Libye, comme c'est un peu long et un peu lourd, on pourra peut-être en parler, si vous voulez, après le film.
Parce que Jean-Paul Marie n'est pas là, mais on a fait d'ailleurs avec Bertrand une présentation avec lui. Moi, ça m'a vraiment marqué. Jean-Paul Marie parle d'un retour de la traite négrière en Libye. On aura l'occasion d'en reparler après, mais pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, et notamment ces traversées en mer Méditerranée, il faut vraiment avoir en tête ce qui se passe en Libye, qui est très très peu médiatisé. C'est un enfer, c'est un chaos, il n'y a plus d'État en Libye. Tous les passages se font par la Libye, hein, puisque c'est là où les trafics prospèrent. N'hésitez pas, on en reparlera après le film. Ouais, vas-y.
Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi, y'a rien.
Réseau FM+, radio associatif en Languedoc méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes. Coralie et Laurent, le marin de l'Aquarius, nous expliquent les conditions des engagements de SOS Méditerranée. Laurent poursuit.
C'est ce qui nous choque, nous, aux marins, quand on arrive d'Europe, avec des idées préconçues et pourquoi cette situation, pourquoi ces gens se retrouvent sur ces bateaux. Personnellement, moi, je pensais qu'ils donnaient un billet à un trafiquant qui se trouvait sur le bateau, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, on s'aperçoit à travers les témoignages qu'on reçoit et qui se recoupent. C'est pas un témoignage parmi 8000, c'est 90% des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas, d'une part, parce qu'ils ont travaillé, par exemple, en Libye sous Kadhafi, et puis maintenant qu'ils ne sont plus payés depuis des années, donc ils fuient. On a des gens qui voulaient partir dans un autre pays, comme par exemple l'Algérie. On a beaucoup de cas de gens qui voulaient aller travailler en Algérie et qui se retrouvent en Libye. Et donc, il s'avère que toutes les routes aujourd'hui qui partent de l'Afrique de l'Ouest convergent vers la Libye. C'est-à-dire qu'on a des cas de gens qui voulaient descendre du pick-up et qui ne pouvaient pas, sous menace de mort, hein, et qui se retrouvent en Libye. Une fois qu'ils arrivent en Libye, il faut savoir que la plupart de ces femmes et hommes ont en poche à peu près toutes leurs économies, donc 2-3 000 euros. D'accord ? Ils sont dépouillés de cet argent-là. Ça, c'est le premier acte quand ils mettent le pied en Libye. Ensuite, ils sont pourchassés, et notamment par les enfants libyens. Les enfants libyens qui sont en majeure partie, notamment sur la région de Tripoli, armés. Et les parents de ces enfants libyens leur proposent de s'entraîner à tirer sur les noirs, en fait. Hein, parce qu'il y a un racisme monstrueux. Et ensuite, donc, ils les remettent aux trafiquants. Et les trafiquants les emprisonnent. Ce ne sont pas exactement des prisons, ce sont des espèces d'anciennes usines désaffectées. On a des cas d'usines désaffectées avec 8000 femmes, d'autres avec 400 000 hommes, et ça répartit sur tout autour de Tripoli. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui circulent et qui disent qu'il y a à peu près 400 000 personnes enfermées en Libye actuellement. D'accord ? Pour pouvoir sortir de prison, ils demandent une rançon. Cette rançon, comme ils n'ont plus d'argent, ils sont obligés de leur demander à leur famille, dans le pays d'origine. Là, c'est tout un système de dette. Avec menaces dans le pays d'origine, sur leur famille, etc. Et donc, ils peuvent, s'ils ont de l'argent, sortir tout de suite, ou sinon attendre plusieurs mois, et voire plusieurs années. On a des cas de gens qui sont restés plusieurs années en prison parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Une fois qu'ils payent, une fois sur deux, ils se refont mettre en prison et on leur demande une deuxième rançon. D'accord, c'est un truc interminable, quoi. Une fois, un jour qu'ils sortent, là ils sont emmenés dans des maisons autour de Tripoli et ils les font sortir la journée, ils les font travailler pour rien. Donc c'est là où on peut parler de vraiment d'esclavage. Et ils travaillent sans être payés, quoi. Donc, c'est de l'esclavage. Les Africains nous disaient, constatés en nous disant, nous sommes devenus, le peuple africain est devenu une marchandise. D'accord ? Ils travaillent pour rien. Une fois que ces gens n'ont plus rien, c'est-à-dire qu'ils sont vidés de leurs économies, que leurs familles sont endettées jusqu'au cou pendant des années et des années, et qu'ils ont travaillé pour rien, qu'ils sont détruits physiquement et psychologiquement. Il faut savoir aussi dans les prisons, ça en a encore un autre détail sordide, mais autant en parler et mettre les pieds dans le plat, mais les femmes sont récupérées tous les soirs par leurs geôliers et sont violées. Donc ce sont des femmes qui sont multiviolées et détruites à jamais. D'accord ? Quand elles viennent sur le bateau, qu'elles posent le pied, ce sont les seules personnes. Les hommes, au bout d'un moment, ils rient, ils parlent, ils racontent leurs histoires, les enfants, ils jouent. Les femmes, elles sont, c'est un mutisme total. Elles ne parlent pas parce qu'elles ne peuvent plus parler. Elles ne peuvent plus parler. Elles ont vécu tant d'horreurs qu'elles ne peuvent plus parler. D'accord ? Ensuite, des maisons où ils sont enfermés en Libye, on les fait traverser le désert et marcher pendant plusieurs heures dans le désert. On les enferme dans des containers géants avec une moitié de baguette de pain à partager pour 10, où ils restent plusieurs jours. Ensuite, du container, on les fait encore marcher, on les amène sur les plages, d'accord ? On les force, hein, on les amène sur les plages, on leur fait creuser des trous géants où ils sont passés à 100, 120, 100, 200 personnes pour éviter qu'ils soient vus des quelques autorités qui traînent dans le coin. Et là, ils attendent. Ils attendent que donc les conditions climatiques soient propices au départ. Ils attendent un jour. S'ils ont de la chance, les départs se font de nuit, hein, entre minuit et 4h du matin. S'ils ont de la chance, ils partent la nuit même. Mais il y en a certains qui restent un jour, deux jours, trois jours, une semaine dans le sable. D'accord ? Et à un moment donné, quand la mer est calme, ils se font dégager à coups de Kalachnikov, donc en pleine nuit, ils sont réveillés, ça tire dans tous les sens, et les mecs, ils les font courir vers les bateaux, et ils les entassent sur les bateaux. Le pauvre gars, la pauvre femme, ou le pauvre enfant qui reste sur la plage, il se fait buter. Ok ? Et voilà, c'est dans ce contexte-là que nous, on récupère ces femmes, ces hommes et ces enfants, à peu près, entre 6 et 10 heures après leur départ. Il faut savoir que ces bateaux, si on peut appeler ça des bateaux, ont une durée de vie hyper limitée, comme je vous disais. Imaginez 140 personnes sur 10 mètres de long et 3 mètres de large. Donc ça coule, hein, ça prend l'eau au bout d'un moment. Et donc on les récupère à peu près au bout de 6 heures. Si on les rate, si on peut dire rater, ben malheureusement, ben, ils se retrouvent dans l'eau et comme ils ne savent pas nager, et le titre du film porte bien son nom, ben ils se noient. Tous les chiffres incroyables que l'on peut voir.
Oui, je rajoute, c'est important parce que souvent on nous pose la question, il n'y a aucune alternative en fait, soit ils sont secourus, soit ils meurent. C'est impossible d'y arriver puisque on nous a déjà posé la question, mais ceux qui voudraient continuer, est-ce que vous les secourez quand même? En fait, ça n'existe pas. Dans tous les cas, ils n'ont aucune chance de survie. Comme le dit Bertrand, si on serait arrivé peut-être 3-4 heures après, il n'y aurait plus rien. Et vraiment, je crois que j'avais vu un chiffre sur l'année, depuis le début de l'année 2016, il y a à peine 1000 personnes sur les 160 000 qui ont peut-être réussi à arriver en Italie par d'autres moyens, qui ont eu de la chance. Mais voilà, il n'y a vraiment pas du tout d'alternative possible. Les embarcations ne sont pas du tout faites pour tenir. Nous, comme le disait Bertrand, on met un peu plus de 30 heures avec ce gros bateau, donc imagine. Voilà, donc cette opération coûte très cher, c'est 11 000 euros par jour. Ça prend en compte le fuel, qui est une grosse dépense, l'armement du bateau, les gilets de sauvetage, voilà, tout ce que tout ce qu'on a besoin pour faire ces opérations. Médecins Sans Frontières nous aide à participer à ce financement. C'est assez effrayant, ça fait peur. Pourquoi c'est si cher? On a un budget donc à 4 millions d'euros l'année. C'est parce qu'on a besoin d'avoir un gros bateau. Notre plus gros sauvetage, tu disais 650, c'était 720, il me semble. On ne peut pas arriver et leur dire, excusez-moi, il n'y a plus de place. Donc il faut un gros bateau, il faut un espace couvert pour les femmes, les enfants les plus vulnérables. Et puis il faut tenir la mer, on est en haute mer. Et donc c'est important d'avoir un bateau comme ça. Comme on le disait, il faut vraiment quelque chose de très adapté pour faire du sauvetage en mer dans ces conditions. Aujourd'hui, on est financé à 99% par des fonds privés. Des fonds privés, c'est vous, c'est moi, c'est des citoyens. Les 1% restants, je le dis quand même, c'est 10 000 euros de la mairie de Paris. C'est quand même saluable. Et là, on vient d'avoir une dizaine de députés qui nous offrent un petit morceau de leur réserve parlementaire. Donc c'est aussi votre argent et notre argent, hein, quand même, je le précise aussi. Tout le reste, ce sont en fait, donc, sur les 99% de financement, donc on n'a aucune subvention, hein, à part cette subvention de la mairie de Paris, les trois quarts des 99%, ce sont des citoyens, c'est le grand public. On a une plateforme de dons sur Internet, sur notre site. Et puis on a un quart, un petit peu de fondation, un petit peu d'entreprise qui commence à nous financer. Et donc ce financement presque, on va dire, quasiment privé, c'est un travail au quotidien, une mobilisation citoyenne sans précédent, avec énormément, énormément de bénévoles qui nous aident pour se faire connaître, et voilà, comme je disais au début, pour faire connaître ce qui se passe. Donc on organise des événements, on tient des stands, on essaye justement donc, de se développer un petit peu en région. Donc moi, comme je le disais au début, je travaille à Marseille. SOS Méditerranée, pour l'instant, c'est 4 salariés. On est 2 à Marseille, 2 à Paris. On est en train un petit peu de s'agrandir parce qu'il faut quand même se structurer. Quand le bateau est parti, il n'y avait aucun salarié. On était tous bénévoles, tous citoyens engagés. Et donc aujourd'hui, 4 salariés avec plein de bénévoles autour de nous. Et justement, on a l'envie de développer cette mobilisation. De faire des soirées comme celle-ci pour déjà montrer cette initiative, montrer que c'est possible, en tant que citoyen on peut agir. On ne peut malheureusement pas tout le temps attendre que les États ou l'Union européenne le fassent, parce que pendant ce temps il y a des gens qui se noient. Et du coup, j'en profite aussi pour dire qu'on aimerait bien, et on est en train de lancer une petite dynamique sur Montpellier. Et donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous aider, n'hésitez pas, donc déjà à la fin, à la sortie vous verrez, il y a une feuille, vous pouvez laisser votre adresse mail. Aussi pour les donc là il y a voilà des personnes de Montpellier déjà qui nous aident et qui nous soutiennent. Il y a pour l'instant un petit noyau d'une dizaine de personnes. On attend toute personne est la bienvenue. Donc il y a une feuille où vous pouvez laisser vos coordonnées simplement pour recevoir des informations, hein, pas forcément pour être bénévole. Et puis si vous souhaitez être bénévole, il y a une petite case à cocher. En deux mots, qu'est-ce qu'être bénévole avec SOS Méditerranée? On ne peut vous proposer aucune action avec un public. On ne fait pas de l'alphabétisation, enfin on n'a pas de lien avec un public migrant. Mais par contre, c'est vraiment de la mobilisation de l'événementiel, de la communication, tenir un stand, organiser un événement. C'est toutes les bonnes idées, le réseau de chacun est important, c'est comme ça que s'est créé SOS Méditerranée. Vraiment, on est parti du réseau de chacun, et aujourd'hui c'est comme ça aussi que ça continue. Et donc vous n'hésitez pas aussi à venir nous voir à la fin si vous souhaitez participer à cette aventure.
Oui, l'exemple de ce soir est un exemple concret, une organisation, un événement qui existe depuis des années, qui nous invite pour participer. Donc ça peut être un événement comme ce soir, ça peut être un concert, ça peut être une foire aux associations, ça peut être... Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'organisateurs d'événements dans la salle. Voilà, si vous pensez à...
Un stand sur un festival, ça peut être vraiment plein de choses. Et c'est vraiment voilà, c'est l'idée de lancer des dynamiques un peu partout. On a un petit noyau aussi à Grenoble, à Bordeaux, un petit peu en Bretagne, à Montpellier. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En fait, moi ce que je trouve aussi important en fait, avec SOS Méditerranée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de montrer qu'on peut agir chacun et de voilà, partager cette initiative. On a, je crois que voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on a fait, des concerts, on a des personnalités qui nous ont offert leur notoriété, ça c'est vraiment super, on a pu organiser des gros concerts, récolter pas mal d'argent. On est présent. On a donc voilà aussi un comité de soutien avec pas mal de personnalités qui se sont engagées à nos côtés. On a donc la communauté maritime, on a un grand soutien vraiment de la communauté maritime. Comme on le disait, pour un marin, c'est difficile de laisser quelqu'un se noyer. On dépasse complètement les débats sur l'immigration. Et donc, on a François Gabart, qui est devenu notre parrain. Donc, c'est celui qui a gagné le Vendée Globe l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et puis, on a quelques entreprises aussi. On a le comptoir des voyages, Voyageurs du Monde, un gros voyagiste qui nous a fait un gros don, qui nous a fait un don de 100 000 euros. On a Agnès B, par exemple. On a eu des dons en nature, des gilets de sauvetage. Voilà, c'est un peu chacun en fait agit à son niveau. C'est important pour nous, la société civile, les citoyens, c'est tout le monde, hein, c'est vous, mais ce sont aussi les entreprises, les fondations. Et évidemment, après, ça dépend de qui. Hein. On est totalement apolitique d'ailleurs, on ne se place pas du tout sur le paysage politique, surtout pas en ce moment. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force d'SOS Méditerranée, c'est qu'on arrive à justement pas rentrer dans ces débats politiques, on est sur une thématique très humaine. Et ce qui fait qu'on arrive à ramener pas mal de monde autour de nous. Tu voulais rajouter
quelque chose ? Oui, juste au niveau des entreprises, je sais que Montpellier a une vie économique intéressante. Il y a peut-être des chances de chef d'entreprise dans la salle. Venez nous voir, on ne va pas détailler ici, mais comment on peut travailler ensemble, à la fois sur votre communication externe, associer l'image de SOS Méditerranée à votre entreprise, et également en communication interne au niveau de vos salariés.
Sachant que pour les particuliers comme pour les entreprises, on fait des reçus fiscaux en fait. C'est voilà, vos dons sont. Ça marche comme ça. Oui, pardon.
Oui, depuis un moment, on a mis Coup de Soleil, on a mis le SOS Méditerranée en lien. Hein, on a une rubrique dans le site, on a mon soutien, on a mis en lien. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que vous me donniez les renseignements sur le groupe de Montpellier pour qu'on puisse les diffuser largement. Et puis aussi, peut-être voir avec les sections de Perpignan et Toulouse s'il y a des choses qui sont possibles.
On profite d'ailleurs pour remercier l'association Coup de Soleil, l'organisation et la ville de Montpellier.
Et je crois. Voilà, je vous propose, alors en fait je pense qu'on prendra peut-être les questions après le film, peut-être bon juste une, monsieur. Il y avait une question.
Juste une petite question très rapide. Oui. Vous avez dit qu'un fondateur, un des fondateurs était de l'Allemagne.
Oui.
Est-ce que l'Allemagne fait le financement de votre...
Oui, alors pardon, j'ai complètement oublié, alors honte à moi. Il y a SOS Méditerranée aussi en Allemagne. Alors, donc on a trois entités aujourd'hui, SOS Méditerranée France, SOS Méditerranée Allemagne, donc à Berlin, il y a une petite équipe aussi, et SOS Méditerranée en Italie. Eux, c'est un petit peu plus nouveau, donc ils sont en train de se structurer. Et bien sûr, aussi en Allemagne, ils ont récolté des sous. Aujourd'hui, sur les trois entités, la France, nous, on ramène un peu plus de 60% du budget. Et l'Allemagne ramène à peu près 30%. Ils ne sont pas structurés de la même manière. On est un tout petit peu plus actifs en France, mais ça va sûrement monter. Donc bien sûr, j'ai oublié de mentionner ça.
Juste pour une petite histoire, l'idée c'était au départ de créer une association européenne. Et en fait, ça n'existe pas en Europe. D'où la nécessité de créer trois associations en France.
Et puis peut-être plein d'autres dans d'autres pays européens. Là, bon, on a à peine un an d'existence, donc on fait petit à petit. Je me permets juste de rajouter une chose assez importante que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que cet hiver, tous les autres bateaux des ONG qui nous avaient rejoints ont annoncé qu'ils ne seraient pas sur zone. On va être le seul bateau. Et du coup, autant vous dire qu'on a encore plus besoin de soutien. L'hiver, il y a normalement moins de traversées, on ne sait pas ce qui va advenir de cet hiver, mais les conditions sont bien plus difficiles. Et là, on vient de voir en début de semaine, on vient de faire un sauvetage comme un peu le dernier que vous venez de voir, avec 5 corps au fond du bateau, donc il y a encore énormément de besoins. On a une visibilité financière jusqu'à Noël pour l'instant, on a de quoi finir l'année. 2017, c'est très incertain. Comme je disais, on est financé essentiellement par le grand public, donc forcément, on n'a pas une grande visibilité. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez faire un don sur le site internet ou envoyer un chèque à l'adresse sur le site. Et puis aussi, une note un peu plus heureuse, si je puis dire ça comme ça, on a quand même eu deux naissances à bord de l'Aquarius. Deux belles naissances qui se sont très bien passées avec le papa et la maman qui étaient là. Voilà, c'est aussi des beaux témoignages et un peu des lueurs d'espoir, d'espérance.
Radio FM+, en Languedoc-Roussillon, réseau associatif. Suite à cette présentation de volontaires de SOS Méditerranée et au visionnement du film sur l'Aquarius, nous passons à un moment d'entretien avec le public.
On est là pour répondre aux questions. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Oui, est-ce que vous avez une idée de ce qui arrive donc après, quand ces gens arrivent en Italie ?
Alors, la grande question de l'après. Alors, nous, on est vraiment un tout petit maillon de la chaîne. On n'intervient que, avec beaucoup de guillemets, sur le sauvetage. Nous, ensuite, on débarque les personnes en Italie. On ne choisit pas les ports où on les débarque. Les ports sont indiqués par le MRCC. On n'aime pas dire la chose comme ça, mais c'est ce qui se passe. En fait, on les remet aux autorités. Quand on arrive au port, il y a en général la Croix-Rouge. Enfin, je pense que Bertrand pourra mieux le dire que moi. Et puis ensuite, les autorités italiennes. Et ensuite, les personnes secourues sont amenées dans des centres... on peut appeler ça d'accueil ou pas, hein, je ne les appelle pas vraiment des centres d'accueil. Mais ensuite, ils entrent dans le process normal d'une demande d'asile. Il y en a qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Il y en a beaucoup qui remontent puisqu'ils n'ont pas envie de rester en Italie. On voit ce qui se passe à Vintimille. En général, ils sont dans des centres, ils attendent. Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos.
En détail, donc dès qu'ils mettent le pied à terre, ils sont pris en charge. D'abord, ce sont les blessés qui sont pris en charge par la Croix-Rouge. Ensuite, les enfants seuls qui sont pris en charge par une ONG qui s'appelle Save the Children. Les familles sont pris en charge également par une ONG. Voilà, et les hommes seuls, eux, sont distribués, entre guillemets, distribués. Dispatchés dans différents hotspots, comme ils disent. Il y a une gestion donc du ministère de la Santé italienne, Croix-Rouge, ONG, également Frontex, qui est là, eux, ils sont là pour essayer de contrôler l'identité, l'âge et les fichiers. Voilà. Et ensuite, donc, comme tu disais, ils demandent le droit d'asile. Beaucoup ne l'obtiennent pas, notamment les hommes seuls, adultes. Et donc après, soit ils sont renvoyés dans leur pays, soit ils s'échappent et deviennent la proie des réseaux mafieux et clandestins. Et c'est le cas également pour les femmes, notamment le cas des femmes nigérianes. Donc il y a des deals qui sont passés entre les mafieux nigériens et les mafieux européens. Et donc pratiquement 100% des Nigériennes se retrouvent à travailler dans la rue.
Oui.
Moi, je vous remercie pour ce beau témoignage. J'aimerais bien savoir pourquoi l'Italie et que l'Italie. Et puis, je voulais vous poser la question de Frontex, parce que dans le reportage, vous dites la Méditerranée est devenue une frontière sans soldats. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Frontex, qui a des bateaux, je crois bien. Et du coup, je voulais vous poser la question des relations ou de l'absence de relations que vous avez avec Frontex quand ils sont en mer.
Frontex, effectivement, sont des navires militaires de toutes les nationalités, de tous les pays, qui, dans le rôle premier, est de surveiller les frontières, parce qu'il y a aussi des frontières sur l'eau, et d'essayer de contrôler ou de comprendre comment le trafic s'organise depuis la Libye. Or, ils participent aussi au sauvetage, et ils font des opérations de sauvetage, comme tout marin, en fait. Et donc, on travaille en collaboration avec eux. Simplement, eux, la différence de nous, ils doivent rester sur zone. Donc, ils nous transbordent les rescapés à bord de nos navires ou des navires des gardes-côtes italiens.
En fait, ils n'ont pas mandat ils annoncent pas officiellement qu'ils font du sauvetage. Ils ne sont pas mandatés pour ça. Aussi, si je ne me trompe pas, ils sont plus près des côtes italiennes, en fait. Donc, pas forcément proches des zones.
Oui, ils sont comme nous, à peu près. Simplement, on ne les voit pas. Ils ne sont pas détectables. Mais dès qu'on a une opération de sauvetage, on se retrouve très vite encadré par 2-3 bateaux militaires pour assurer notre sécurité et puis voir comment ça se passe.
Après, en fait, il y a deux choses, enfin, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a Frontex et puis il y a l'opération Eunavfor Med Sophia, qui est la suite de l'opération Triton. Donc, en fait, l'opération Sophia, c'est des bateaux militaires de l'Union européenne qui ont pour mandat la lutte contre les passeurs. En réalité, il n'y a pas beaucoup de passeurs qui montent sur les bateaux, voire pas du tout, qui de fait font énormément aussi de sauvetage, sauf qu'ils ne communiquent pas dessus. Et qu'après, c'est pas forcément le même accueil aussi à bord. Mais ils en font beaucoup, hein. Ils font beaucoup de sauvetage. D'ailleurs, comme ils ont énormément de bateaux, des moyens, en termes de chiffres, ils sauvent beaucoup plus de monde que l'Aquarius.
Et à ce propos, petite anecdote, c'est qu'au départ de leur mission, ils arrêtaient une ou deux personnes à bord de ces... Alors, dans le film, ils appellent ça des zodiacs. En tout cas, ce ne sont pas des zodiacs, hein. Ce sont des bateaux en plastique qui sont la même matière que nos bateaux en plastique pour nos enfants sur les plages l'été. Une petite parenthèse. Et donc juste, ils arrêtaient à la fois le gars qui pilotait le bateau, et puis la personne qui était à côté en pensant que c'était des passeurs, en fait pas du tout. Quand ils sont mis dans les bateaux, ces gens, les Libyens désignent un gars pour barrer, et puis un gars avec une boussole pour aller au nord, tout simplement. Donc du coup, je pense qu'ils font de l'écoute essentiellement. Mais en gros, ils font du sauvetage comme nous.
Et pour revenir sur la question pourquoi l'Italie, en fait, la mer Méditerranée est découpée en zones de surveillance. C'est à peu près bien découpé. Nous, on est sur une zone qui est gérée par l'Italie. Et après, il y a aussi une question géographique. Hein. Les ports les plus proches sont les ports italiens. Enfin, nous, je sais qu'on nous a souvent dit pourquoi vous ne les débarquez pas à Marseille. Marseille, c'est super loin. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un droit maritime. On rentre dans les codes. On dépend complètement du MRCC à Rome qui nous indique.
Et puis, ils ont un accord quand même avec la CE pour accueillir. Il y a quand même un petit financement, même si là, ils sont over quota et complètement dépassés par les événements. Mais il y a aussi un accord avec l'Europe pour qu'ils gèrent l'accueil.
Merci. Toujours par rapport à la position de Frontex plus loin de la présence dans l'eau, je voulais savoir si vous avez aussi des autres types de coopérations en contact avec Frontex, parce qu'il y a des autres bateaux aussi qui participent au sauvement de gens comme Moas ou Médecins Sans Frontières. Sea-Watch, etc. Et il y a aussi des bateaux que, après, quand l'agent à Lampedusa ou en Sicile en général, il passe des informations par rapport aux migrants. Alors, pour exemple, toutes les photos qu'on a vues que vous prenez
pendant
les moments de.
Effectivement, quand on arrive, ils montent à bord, ils vont voir toutes les images qui ont été prises, ils essaient d'identifier des passeurs, mais il n'y en a pas, clairement. Ils interrogent en fait un par un avant de les emmener dans les bus. Ils sont interrogés pour savoir leur histoire, d'où ils viennent, etc.
Oui, mais plus loin que ça, je voulais savoir aussi quel type de position prend SOS Méditerranée par rapport à tous ces gens de.
On ne collabore pas avec Frontex. Je suis désolée. On ne travaille pas avec Frontex. En fait, il faut comprendre qu'on est dans. On est encadré, on ne peut pas faire ce qu'on veut du tout, on est sur du droit maritime. Donc nous, on ne collabore pas du tout avec Frontex. Après, comme je disais, on ne choisit pas les ports où on les débarque. Et une fois qu'on arrive, on ne peut pas refuser. Une fois qu'on arrive dans un port, là, on se mettrait en illégalité et on ne pourrait plus faire ce qu'on fait, en fait. C'est un petit peu la condition aussi. Je me souviens, dans les tout débuts, on nous disait oui, ça serait super que vous puissiez aller où vous voulez, les amener dans une petite crique où il n'y a pas les autorités, c'est juste impossible en fait. On ne pourrait pas faire ça sinon. On est obligé d'être un petit peu dans un cadre de se déclarer auprès du MRCC, sachant que le MRCC, ce sont eux qui nous relaient les appels de détresse, donc ça c'est primordial de se coordonner. Après, on ne cautionne pas ce que fait Frontex et on ne collabore pas avec eux. On ne fait que juste. Répondre à leurs sollicitations.
La question que ça me fait faire beaucoup de réflexions, et la chose que j'écoutais avant, de n'avoir pas, d'être apolitique ou de n'avoir pas une position politique, et je pense que je comprends que c'est aussi une question humaine, mais je pense aussi que c'est très important de prendre une position politique par rapport à toutes ces questions de Frontex, comme traverser la mer.
Oui, en fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que SOS Méditerranée est d'accord avec vous. On est encore très très jeunes. Donc le plaidoyer, ça se travaille, ça demande aussi une notoriété. On a évidemment dans l'idée de réfléchir à un plaidoyer. Pour l'instant, on se structure, on essaye de tenir le bateau sur l'eau, mais on l'a clairement en tête. On essaye de commencer un tout petit peu ce plaidoyer plutôt sur la Libye, vraiment informé de ce qui se passe en Libye. Donc là, c'est plutôt du plaidoyer grand public, je dirais. C'est en cours de réflexion pour un plaidoyer un peu plus poussé.
Et encore une fois, SOS Méditerranée est né d'une absence d'action et de volonté d'action de la part des États européens. Donc,
Oui, mais je pense aussi, toujours il faut ajouter quelque chose de dénonce par rapport à toute la situation.
C'est le troisième objectif qui est de témoigner.
Surtout parce que, le travail politique même, de changer les choses qu'on peut faire ici.
Oui, notre rôle, c'est de sauver des vies. Si on n'est pas là, ils se noient, on sauve des vies. Après, ce qui se passe après, je ne dirais pas que ce n'est pas notre job. On y pense, on sait les choses.
On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs.
Oui, il y a une question au milieu. Ah, pardon. Vous expliquiez tout à l'heure, une fois sur la Méditerranée, c'est soit qu'on meurt, soit qu'on bénéficie du sauvetage. Y aurait-il, au-delà de la fragilité de ces bateaux-là, qui constituent un risque véritable, y aurait-il une autre menace qui rendrait, on va dire, forcément dramatique la traversée, à défaut du sauvetage?
Quelle menace, je sais pas.
Des attaques ou des destructions.
Oui, alors.
Programmées de ces bateaux-là.
Alors, effectivement, on retrouve toutes les semaines des corps sur les plages. Il y a l'action des gardes-côtes libyens qui est décriée, parce que quand ils vont récupérer ou faire du sauvetage, en fait, ils les sauvent pas, soit ils les tuent sur place, soit ils les ramènent en prison à Casse Départ. Et puis récemment, effectivement, on a eu deux attaques de nos bateaux, pas le nôtre, mais en l'occurrence le bateau de Sea-Watch. Ainsi que le bateau de MSF, qui sont fait attaquer par les gardes-côtes.
En fait, les gardes-côtes libyens, ça veut rien dire, parce que, on ne sait pas qui sont ces gens. On a eu des témoignages aussi de personnes qui expliquent qu'en Libye, il y a des gens en uniforme, on ne sait pas qui c'est. Comme il n'y a pas d'état vraiment clair en Libye, les gardes-côtes libyens, c'est très flou. On ne sait pas vraiment qui sont ces gens. Et nous, on a interdiction totale d'aller dans les eaux libyennes. Et malheureusement, en effet, il se passe beaucoup de choses dans ces eaux libyennes. Et moi j'ai eu le témoignage d'une personne qui raconte, en fait, les migrants les appellent souvent les pirates, en fait. Ils racontent qu'ils partent, et puis qu'en fait au bout d'une heure, il y a un autre bateau qui arrive, armé, ils ne savent pas vraiment qui c'est, donc on pourrait dire les gardes-côtes, qui vont soit en effet directement les tuer, soit leur dire on vient vous secourir, et puis en fait ils les ramènent en Libye pour les re-rançonner, il y en a qui brûlent des bateaux. Donc en effet, il y a aussi ces attaques-là qui sont pour l'instant généralement plutôt dans les eaux libyennes. Après, le bateau d'MSF, par exemple, s'est fait attaquer, il n'était pas dans les eaux libyennes.
Voilà, nous, on n'est plus dans les eaux libyennes depuis ces attaques. Hein. Les eaux libyennes commencent à 12 000 des côtes, nous, on se situe à peu près à 25 000 des côtes. Voilà, mais ça ne les empêche pas. Le dernier bateau, il était à 25 000 des côtes, il s'est fait attaquer quand même. C'est quand même important d'en parler, c'est vrai, de témoigner là-dessus, quand on sait qu'aujourd'hui, la volonté des États européens, je pense notamment à l'Allemagne, par exemple, et puis d'autres, est de former ces fameux gardes-côtes libyens, les financer, les équiper, etc.
C'est une des nouvelles missions de l'opération Eunafor Med Sophia, qui a pour mission de former les gardes-côtes libyens. Alors, pour le coup, je vous avoue, pour nous, c'est très flou, en fait. On ne comprend pas vraiment qui ils vont former, comment.
Alors, leur idée, telle qu'on croit qu'ils la pensent, leur idée, c'est que la frontière doit être... de rester en Libye, quoi. C'est-à-dire que c'est 400 000 personnes qu'il y a actuellement dans les geôles libyennes, et puis ceux qui arrivent tous les jours, il faut qu'ils restent en Libye, il ne faut pas qu'ils viennent en Europe. Donc, voilà, après...
Quel est l'impact d'Aquarius sur l'ensemble des pays riverains? Et comment les populations civiles, les pêcheurs, se mobilisent, en particulier en Grèce, en Turquie, au large d'Israël, etc. Est-ce qu'il y a que l'Aquarius
Alors nous, on est positionné simplement sur l'axe Libye-Italie. On n'intervient pas du tout. La mer Méditerranée, c'est vraiment très très grand. Moi-même, j'ai découvert la géographie avec SOS Méditerranée. Il n'y a pas d'autres initiatives telles que l'Aquarius ailleurs. Après, j'ai pas trop connaissance. Je pense qu'il y a des pêcheurs qui font clairement du sauvetage.
Sur la zone, c'est une zone de guerre déjà, clairement, hein, il y a des bateaux militaires partout. Donc il n'y a pas grand monde quand même. Il y a quelques bateaux civils, les pétroliers, etc., qui vont sur Tripoli. Le dernier sauvetage armatique, c'est un pétrolier qui essaie de récupérer. Donc c'est genre. Et les quelques pêcheurs qu'on voit sont des pauvres pêcheurs qui, des fois, suivent les bateaux migrants. Ça nous est arrivé, nous, cet été, à trois reprises. Ils suivent les bateaux, tout simplement, en botte. Mais ce sont des petits pêcheurs, il n'y a pas vraiment de gros bateaux de pêche, etc. Les thoniers, peut-être vous pensez aux thoniers, notamment c'est toi qui ont travaillé là-bas ou quoi, ils sont quand même un peu plus au large.
Sur FM Plus Studio de Montpellier, nous venons de recevoir deux témoignages sur SOS Méditerranée, association consacrée au sauvetage en mer des migrants, avec un bateau qui atteint une certaine notoriété, l'Aquarius. On prit alternativement la parole Coralie, animatrice au centre de Marseille, et Laurent, marin sur l'Aquarius précisément. Vous avez notamment été sensible à leur motivation principale, l'indignation. Et sensible aussi à leur inquiétude, l'Aquarius manque de financement et seul l'engagement populaire peut faire face. Coralie et Laurent étaient les invités de la quinzaine de Tiers-Monde de Montpellier. Vous pourrez retrouver leurs coordonnées en vous adressant à la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité Internationale, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, toujours à Montpellier, au 04 67 02 13 42, 04 67 02 13 42. Bien sûr, vous trouverez aussi facilement sur internet SOS Méditerranée que l'Aquarius. Au revoir et à bientôt pour un prochain parcours sur FM+.
Puis toutes les vagues de la mer longtemps murmurent. Savoure, faible cœur, l'angoisse de cette heure. Ne songe plus qu'à ton enfance. Quoi ? Tu pleures ? Clair. Mais non, ce n'est pas possible, il fait beau temps. Et toujours le vent et le bruit des flots sans fin. Encore un, là, là-bas, regarde. C'est toujours dans ce même coin du ciel. Ça passe comme une faux sur des avoines. Tiens, encore. Ça dure une seconde à peine, on dit sur des avoines.